France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Un sacrificateur, un personnage très mal intentionné qui vole votre énergie vitale, votre graisse pour en faire des médicaments, blanc, métis, une créature mythique dont les représentations se modifient et dont le grand avantage, apparemment, est qu'en se faisant exclure, il resserre les liens d'une société. Alors, le prédateur supposé peut-il devenir victime ? Rediffusion d'une matinée des autres signée Laurence Crémière et réalisée par Christine Berlamont est proposée pour la première fois sur France Culture le 10 avril 1990.
La matinée des autres, le pichetago.
J'essaye de me rappeler les noms de tous les diables de mon enfance. Je trouve par exemple le Tunchi, les diables de la nuit, égarés dans la forêt. Puis il y a les Chapchico, c'est un diable plutôt espiègle, qui ne fait pas du mal, mais plutôt il essaye de se moquer de vous. Puis il y a le Chuyachaki, un personnage plutôt petit, avec un pied mal formé. Il y a Karunas. Mais dans ces diables-là, je ne vois pas, nulle part, Pichetaco. Pichetaco, c'était pour moi. On bandit comme ça.
Le Pichetaco, permanence, résurgence d'une croyance en pays andin.
Jamais on ne voit le Pichetaco. Et on n'a jamais aucun récit direct de Pichetaco. En tout cas, en Amazonie, on n'a aucun récit direct de Pichetaco. C'est toujours Disenke, il a fait ceci. On dit qu'il a fait ceci, il a fait cela. On dit qu'il y a trois personnes qui sont mortes. On dit que des enfants sont morts empoisonnés. Moi-même, j'ai entendu dire que, etc. Et on n'a jamais de récit direct. Donc il y a toujours une manipulation.
En cuanto a las víctimas, entonces... Encontramos en los relatos de la Sierra Central.
Les victimes, selon les récits de la Sierra Centrale,
viajeros, arrieros,
ce sont des voyageurs, des bergers, des paysans qui s'éloignent des villes, et particulièrement des femmes qui sont séquestrées par les Pichetaco, qui sont ses assistantes.
Dans la croyance, c'est un personnage redoutable, mais dans la réalité, ça devient une victime vraiment plus que pitoyable. C'est vraiment dramatique.
Le Pichetaco s'approche plus du mythe, s'approche plus de l'histoire cyclique, s'approche plus de la conception culturelle d'une ennemie, si vous voulez. C'est pour ça que l'histoire revient et revient. Mais elle ressort toujours avec des formes nouvelles. C'est pas un mythe, mais elle est toujours là, l'histoire.
On raconte qu'il y a longtemps, plus ou moins au début de la République, des individus se baladaient aux alentours de presque tous les villages et tuaient les gens qui sortaient dans la campagne. Ils tuaient spécialement ceux qui étaient gros et qui possédaient une très belle voix parce que, disait-on, le sang et la graisse de ces dites personnes servaient à la fonte des cloches. Et on disait encore que plus la personne avait une belle voix, plus la sonorité de la cloche était belle. Et on disait encore que ces hommes sanguinaires qu'on appelle Pichetaco, ces individus, étaient terriblement craints par le peuple.
Au Pérou, en fonction des deux grands groupes dialectales quechua, on connaît l'égorgeur, le dégollador, sous deux noms. Au sud, dans la région d'Ayacucho et de Cusco, il est le nácar, terme qui vient du verbe nacay, égorger. Alors qu'au centre et au nord, dans la vallée du Mantaro et jusqu'en Amazonie, on le nomme pishtaku, du verbe pishtai, qui est l'équivalent exact du terme utilisé dans le sud et qui a donné lieu à sa castillanisation sous la forme de pishtaku. Dans la zone Aymara, celle de l'altiplano bolivien surtout, il existe un personnage similaire, le carisiri, celui qui coupe la chair.
Les représentations du pishtaku se sont modifiées au cours des temps et au fur et à mesure que de nouveaux acteurs sociaux entraient dans le champ de nouveaux rapports sociaux au sein de la communauté ou à l'extérieur de celle-ci.
Gilles Rivière.
Alors dans les descriptions que l'on pourrait qualifier de classiques, le pishtaku ou le likichiri, le kalisiri, pour employer les termes utilisés au sud des hauts plateaux andins, est toujours un autre, généralement un espagnol autrefois ou un gringo aujourd'hui, un blanc et très souvent un prêtre ou un moine. Un moine franciscain vêtu d'une robe de bure, le visage couvert d'une longue barbe, personnage qui sort la nuit en agitant une clochette et qui, dit-on, était particulièrement actif dans les lieux déserts et notamment au mois d'août. Alors pourquoi le mois d'août ? Le mois d'août en Aymara est appelé Sahla Parsi ou Nyankra Parsi, ce qui veut dire mois diabolique ou en tout cas dangereux. Et ces termes sont utilisés, Sahla, Pirou, Nyankra sont utilisés pour désigner tous les espaces ou tous les moments chargés de pouvoir, dangereux, incertains, difficilement maîtrisables en tout cas par les hommes. Et c'est à partir du mois d'août, juillet-août, que les forces de la nature dans le monde Aymara sont en effervescence qui va croître jusqu'à la Toussaint, puis jusqu'au carnaval et finalement jusqu'aux récoltes qui se font en mars ou avril. Et le fait que le pishtaku ou kalisiri sorte la nuit dans les lieux déserts ou à ce moment-là de l'année relève d'une même logique de découpage du temps ou de l'espace. Il s'agit toujours de zones de transition, de moments de transition, de pourtour, de confins, de limites liées à l'extériorité de la communauté ou du village.
Dimanche 2 décembre 1979. Trois mois que je suis en forêt amazonienne et que je partage la vie des Indiens Maihuna, que l'on appelle ici Orejones. Je dois descendre à Iquitos pour quelques démarches et je me retrouve dans un village métis à Tamanco, sur le bord du grand fleuve Napo. Il a plu toute la nuit. Tout le monde est parti à la fête et je suis restée discuter avec Aurora, une jeune femme Maihuna mariée à un métis. Elle m'a appris une histoire invraisemblable. Il y aurait, paraît-il, trois gringos qui tueraient des gens près d'ici. Ils auraient tué une femme qui allait au jardin leur chercher des bananes. Ils lui auraient coupé les mains, les pieds et la tête para sacar manteca, pour extraire la graisse de son corps. Son mari serait revenu de la forêt plus tard, mais étant allé à la chacra avec une machette seulement à la main, il n'aurait rien pu faire. Il aurait vu les gringos fumer tranquillement en face du corps ensanglanté. Il aurait vu la machine qui faisait du bruit, le bruit des gouttes d'huile que l'on sort du corps. Aceite de cristianos para los aviones. Dicen que es la mejor aceite. C'est incroyable. Il serait reparti chercher son fusil et à son retour, ils auraient disparu. Il tuerait, paraît-il, les Indiens Yagua et aurait pour cela une autorisation du gouvernement. Il serait guidé par un Péruvien. À Petrona, un autre jeune de 15 ans, sur le fleuve, est resté fou après avoir vu la lanterne, la fameuse lanterne qui tue, dont le rayon serait meurtrier. Il n'est pas mort car elle n'a pas fonctionné, mais depuis il ne cesse de hurler « Tres gringos quieren matarme ». J'ai expliqué à Aurora que ce n'est pas possible de tirer de l'huile d'un corps humain pour la mettre dans les avions, et qu'en plus il en faudrait une telle quantité qu'il serait nécessaire de tuer des milliers de personnes. Mais c'est intéressant de voir comment fonctionne l'imagination des gens. Toujours est-il que l'on me prend pour une espionne et que l'on lie mon sort à celui des trois gringos.
Ce personnage a la particularité de s'intéresser à la graisse des Indiens.
Antoinette Molinier.
Il tue un Indien qu'il rencontre dans des circonstances faciles pour lui, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, dans des endroits un petit peu reculés. Et par différents procédés, il leur ôte leur graisse, quelquefois avec un appareil spécialisé, d'autres fois en le suspendant à une corde et après l'avoir égorgé ou décapité, on recueille la graisse dans un petit plat en dessous. Et le Pichtaco a une autre caractéristique, c'est que c'est un excellent commerçant, il vend cette graisse. Alors à l'époque coloniale, on disait que cette graisse était vendue pour favoriser la fabrication des cloches auxquelles elle donnait un joli son. On dit par exemple que la cloche du Cusco, de la cathédrale de Cusco, qui s'appelle la Maria Angola, qui est très connue par sa sonorité merveilleuse, on dit que Maria Angola est pleine de graisse d'Indiens. Et aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit plus de l'utiliser pour les cloches, mais pour des choses beaucoup plus modernes, comme la médecine, l'industrie pharmaceutique, et maintenant l'informatique. Il paraît que la graisse indienne est excellente pour la fabrication d'ordinateurs et tout ce qui touche à l'électronique. On trouve cette croyance au Pichtaco sous une autre forme en Espagne. Le Pichtaco est là en Espagne ce qu'on appelle el tío mantequero, el saca mantecas. Manteca, c'est la graisse et le beurre. Et c'est une croyance qui existe encore aujourd'hui et qui s'adresse beaucoup aux enfants. On menace les enfants s'ils sont pas sages d'appeler le saca mantecas. Et ce saca mantecas ou tío mantequero, on dit qu'il ouvre le corps entre les doigts et qu'il extirpe la graisse en la sortant des doigts. Et on ne dit pas, par contre, ce qu'il en fait.
Les gens du village sont armés et sont prêts à tirer sur le premier gringo de passage. Nelly est venue me chercher pour aller à la fête. Je suis restée un peu et une femme de Tamanco est venue me voir, l'air agressif, me demander ce que je faisais là, où étaient mes paisanos, me dire que l'on ne voulait pas de gringos à Tamanco et que todos somos iguales. Elle était très énervée. Je lui ai dit que je venais faire une étude anthropologique, apprendre les coutumes anciennes, la langue des orejones. Je lui affirme que je suis pacifique et nullement prête à la tuer. Mais elle est restée à moitié convaincue. La partie de foot se termine. J'essaye de négocier un bateau pour demain.
Dans l'iconographie préhispanique, qui illustre les mythes et les rites andins, en rapport avec un calendrier des tâches cérémonielles qui vise à assurer la reproduction sociale, figure un être mythique qui égorge et écorche des êtres humains avec un toumi, une arme rituelle aux tranchants courbes.
Anne-Marie Okengem.
Ce personnage occupe une position intermédiaire entre les hommes et leurs ancêtres. Il apparaît dans les représentations de rites de propitiation, les sacrifices, et dans les représentations de rites d'expiation, les supplices. Au cours des rites de propitiation, des jeunes guerriers capturés au cours d'un combat rituel étaient sacrifiés, la gorge tranchée, et les ancêtres recevaient les têtes et le sang. Il apparaît aussi dans les rites d'expiation, les supplices, où les transgresseurs de l'ordre ont la peau arrachée, et leur graisse est livrée aux vautours. L'égorgeur écorcheur avait, semble-t-il, à l'époque préhispanique, le double pouvoir du guérisseur sorcier. En tant que guérisseur, il offrait la force vitale des victimes sacrificielles pour obtenir en échange la reproduction sociale. En tant que sorcier, il effaçait l'identité de ceux qui menaçaient cette reproduction.
L'année 1571, les Indiens ont cru que les Espagnols avaient envoyé des hommes de l'Espagne en ce royaume pour chercher la graisse des Indiens, pour soigner certaines maladies contre lesquelles il n'y avait pas d'autres médicaments que la graisse. À cause de cela, en ce temps-là, les Indiens étaient très réticents et se méfiaient des Espagnols, à un tel degré qu'ils ne voulaient même pas leur porter du bois, des herbes ou d'autres produits. Ils disaient que chez les Espagnols, on les tuerait pour leur prélever la graisse. Cristobal de Molina.
Après la conquête, l'égorgeur écorcheur, Niaka en quechua, qui agissait en guérisseur pour le bien de sa communauté, a dû continuer à célébrer les anciens rites en dépit des interdictions de l'Église. Par ailleurs, les Indiens, qui devaient supposer que leurs conquérants avaient leurs propres égorgeurs écorcheurs au service des autorités espagnoles, devaient craindre les agissements de ces sorciers ennemis qui devaient chercher à se procurer leur graisse pour la manipuler dans le but de leur faire perdre la raison, la conscience, l'identité et de les éliminer.
Ce n'est pas un hasard si au moment du mouvement du Takionkoi en 1570, c'est un mouvement qui a traversé les Andes, qui a fait trembler le vice-roi et les autorités espagnoles, puisque c'était un mouvement de résistance religieuse qui était très important, et en plus qui a eu un versant politique dans la résistance des anciens Incas au Cusco. Un chroniqueur, Molina el Cusqueño, Molina du Cusco, nous dit que les adeptes de ce mouvement messianique affirmaient que les Espagnols étaient venus leur enlever leur graisse. Leur extirper leur graisse. Et je pense qu'on peut faire une sorte de lien entre extirper la graisse et extirper l'idolâtrie. Parce qu'en fait, le mouvement du Takionkoi s'élevait essentiellement contre cette extirpation de l'idolâtrie, contre l'extirpation des huacas, des divinités locales que les extirpateurs tentaient de détruire. Oui, alors le mouvement, les militants du mouvement du Takionkoi, on peut effectivement parler d'un repli sur soi-même dans la mesure où il s'agissait d'un repli sur ses dieux. Et se replier sur ses dieux, c'est se replier sur soi-même, puisque les divinités locales, là je parle des divinités ethniques, locales, régionales, par opposition aux divinités étatiques, à la religion étatique, n'est-ce pas ? Donc se replier sur sa waka, c'est effectivement se replier sur son ethnie, sur son lignage, sur soi-même. Donc. Et de plus, je crois qu'il faut, dire quelle était la théorie de ces militants du Takionkoi. De leur côté, ils ne condamnaient pas particulièrement les dieux espagnols. Ils avaient simplement une théorie de dieux parallèles, si on peut dire. C'est-à-dire que les saints, la Vierge, c'est très bien pour les Espagnols. En fait, c'est tout simplement leur huaca à eux. Hein. Et nous, les Andins, nous avons nos huacas à nous. Et il ne saurait y avoir, si vous voulez, de mouvement de réciprocité entre les dieux des uns et les membres de la communauté des autres. C'est-à-dire que les huacas des Espagnols ne sont pas bons à prier et ne sont pas bons à ritualiser pour des demandes proprement andines. À chacun ses dieux, tout simplement.
Hein. Ce qui pose la question de l'autre, puisque dans le fond, le Pishtaco pose cette question essentielle de la relation entre deux communautés, finalement, qui, entre elles, auront toujours vu l'existence d'une faille presque infranchissable.
Oui, absolument. On peut dire, je crois que c'est l'opinion parmi nous qui est la plus répandue, c'est que le Pishtaco est vraiment une sorte de modèle de l'image de l'autre pour les Andins. Modèle dans lequel, suivant la période historique concernée, on met une figure ou une autre. On met des ecclésiastiques pour la période coloniale et des industriels pharmaceutiques ou électroniques de nos jours, mais qu'effectivement c'est une sorte d'archétype de l'image de l'autre, effectivement.
Il semble que la configuration générale dans laquelle s'insèrent l'égorgeur, écorcheur, preneur de graisse, est celle d'une représentation de l'autre tout-puissant et donc menaçant. L'évolution de ce personnage, au service des ancêtres mythiques qui dominent leurs descendants d'abord, des ennemis, des conquérants espagnols, des oppresseurs, hacendados coloniaux et républicains, et actuellement des hommes armés, quel que soit leur camp, des riches experts, des coopérants ou des touristes étrangers, est étroitement lié à l'émergence de formes de résistance qui s'opposent toutes à l'autre, au pouvoir de mort.
Guillermo, le mari d'Aurora, me dit d'avoir discuté avec le teniente gobernador à mon sujet, sur ce que je faisais ici. Vicente est venu me voir avec les mêmes questions. Pour les tranquilliser, je leur dis que j'ai toutes les autorisations nécessaires et que je peux leur montrer immédiatement. Bon, on va chez le teniente gobernador. Je présente ma carte d'identité et tous les papiers officiels faits par le ministère de l'Agriculture. C'est lui qui s'occupe des communautés indiennes. Ces histoires ne seraient que des rumeurs, rien de certain ni de vérifié. Mais les gens ont réellement peur. De retour à la maison, plusieurs personnes sont revenues demander ce que je faisais là, et Guillermo leur a encore expliqué. Le soir, nous avons dîné de masamora de bananes vertes sucrées à la mélasse et de bananes grillées. On a discuté un peu, toujours du prix comparé des choses, le prix d'une dent en or, du savon, du kilo de viande sur un porc. Demain sera la pleine lune. Les bêtes vont être pleines, on se couche. La nuit est tranquille. Personne n'est venu ni m'ennuyer, ni me menacer.
La graisse pour les Andins entretient avec le corps un rapport qu'on pourrait appeler métonymique, véritablement. C'est le siège de l'énergie vitale et on pourrait même dire le siège de l'âme, si tant est que l'on puisse traduire des termes comme Kamak et Nuupani. Les Andins ont plusieurs âmes et qui sont plus ou moins physiques et plus ou moins abstraites. Et je dirais que la graisse est un élément essentiel d'une âme plus physique que les autres. Les Indiens distinguent Alma, qui est la traduction d'âme espagnole, de la notion chrétienne d'âme en espagnol, et animo. Animo veut dire en espagnol l'animation, si vous voulez, c'est l'âme, animation du corps, vous voyez. Et la graisse ferait plutôt partie, serait un élément essentiel de cette seconde âme qu'on peut appeler animo. Mais surtout, il y a peut-être une chose qu'il faut signaler, c'est que cette habitude qu'ont les Andins, par exemple, au moment des funérailles, de manger et de boire avec excès. Et il semble en fait que, à travers cette nourriture excessive, on essaye de s'incorporer l'animo, l'énergie du défunt, de ses ancêtres. Donc, si vous voulez, quand on vous enlève votre graisse, finalement, on vous enlève également quelque chose de vos ancêtres, de votre lignée, quelque chose qu'on pourrait dire être au-delà de vous. De la culture andine, l'utilisation de la graisse est très très importante et il s'agit d'une utilisation symbolique, c'est-à-dire on utilise sa graisse pour sa fonction strictement symbolique. Par contre, les Espagnols, eux, utilisent également la graisse. Alors les Espagnols, évidemment, dans l'idée que se font les Andins d'eux, n'est-ce pas, dans le discours andin, les Espagnols, de leur côté, utiliseraient cette graisse mais pour ses qualités matérielles, ils en feraient une utilisation extrêmement pratique.
Et je trouve que cette opposition est assez intéressante. Par exemple, Arriaga nous parle de certains brujos, de certains sorciers, qui pouvaient détruire l'âme de leur victime. Il dit « para que se entontezca y no tenga entendimiento ni corazón », pour qu'ils deviennent idiots et qu'ils perdent tout entendement et tout cœur. L'entendement et le cœur, n'est-ce pas ? Il faisait ça, il nous dit, en brûlant une petite poupée fabriquée avec de la graisse. Et on a également un témoignage du chroniqueur Wamampoma Yayala qui mentionne une manipulation de graisse humaine par ce qu'il appelle des hechiceros, des magiciens. Et ça, évidemment, c'est un vocabulaire qui est très hispanisant. Il semble qu'il s'agisse de divination, puisque la graisse est cuite avec du maïs, des plumes, de la coca, de l'or et de l'argent, et qu'elle permet à ces magiciens de parler, dit Wamampoma, toujours dans son langage un peu hispanisant, con los demonios, avec les démons. Alors, même si cet auteur ne mentionne pas une relation très directe entre la victime et sa graisse, il précise cependant que cette espèce de potion magique pouvait tuer, et il précise-t-il, juntar hombres con mujeres, mettre ensemble hommes et femmes, c'est-à-dire c'est une sorte de filtre d'amour en même temps. Donc vous voyez là que la graisse peut servir aussi bien pour attirer la passion amoureuse, pour détruire l'âme de quelqu'un, ou simplement pour parler avec les démons. Hein. C'est donc une utilisation extrêmement variée.
Lundi 3 décembre. Je me lève très tôt en prévision du passage d'un bateau. Je range mes affaires en vitesse et heureusement, car un péqué-péqué, un petit bateau avec un toit de palme bourré de bouteilles vides, de porc et de régime de bananes, s'arrête à 6 heures du matin. Il veut bien me prendre et si tout va bien, je serai à Iquito ce soir. Le ciel est très couvert. Le napo et les berges sont plongés dans le brouillard. Il fait plutôt frais. Nous descendons peu à peu le fleuve, totalement noyé dans le brouillard, avec un soleil diffus par derrière, le napo charriant tout autour une écume blanchâtre. On a l'impression de naviguer sur une mer de sel, complètement à l'aveuglette, dans un monde lunaire, sans aucun point de repère à l'horizon. Peu à peu se profile une masse sombre, les arbres, le brouillard s'estompe. On s'arrête près des maisons, de temps à autre, pour faire du commerce, charger ou descendre d'autres voyageurs. J'arrive le soir à Iquitos, après de nombreux arrêts, changements de bateau et marche sur le Baradero.
La graisse est encore aujourd'hui un élément très important des offrandes rituelles. C'est-à-dire une offrande tout à fait traditionnelle dans les rituels, c'est de la graisse de l'ama accompagnée de feuilles de coca.
À ce moment-là, c'est un échange qui se passe entre l'offrande et ce qui est donné en échange de l'offrande.
Voilà, alors la différence est effectivement très importante avec le pishtaco. C'est qu'avec les divinités, les Andins ont des relations de réciprocité. C'est-à-dire qu'en échange des rituels qu'on leur attribue, des rituels qu'on leur fait, les divinités concernées vous donnent soit la fertilité de la terre, la fertilité des troupeaux, la santé de votre famille. Alors que ce qui est tout à fait particulier chez le Pishtaco, c'est qu'il n'y a pas de relation de réciprocité. Il prend sans donner. Et c'est une sorte là de métaphore, on peut dire, des relations coloniales. Des relations qui se sont établies avec les Espagnols et avec les Blancs.
Relations coloniales fondées sur l'exploitation de la terre, l'exploitation des hommes, dans la Sierra avec les obrajes où les Indiens étaient enrôlés pour tisser, et avec les mines, qu'elles soient d'or, d'argent ou d'étain. En Amazonie un peu plus tard avec le caoutchouc, dans la région, entre autres au Pérou, du Napo, près de la Colombie et du Brésil.
Il y a eu, entre 1880 et 1920, dans cette région d'Amazonie, une intensive exploitation du caoutchouc. La région a été partagée en diverses casas, dont la Casa Arana, qui est très fameuse et qui a sévi de part et d'autre de la frontière en Colombie et au Pérou. Ils se partageaient les terres, ils se partageaient les hommes, et ils ont commis, enfin les différents patrons caoutchoutiers, dont certains étaient plus importants que d'autres, ont commis dans cette région des génocides.
Irène Bélier.
Les Indiens Mairuna m'ont raconté eux-mêmes qu'ils ont des histoires vécues de personnes qui ont été suspendues par les bras en l'air, balancées à la pointe de la machette d'un capatas à l'autre, d'un contremaître à l'autre, comme ça, donc le corps découpé, cisaillé, comme on coupe les arbres pour en faire sortir le latex. Donc il y avait comme ça, dans la mémoire des corps, dans la mémoire des gens, il y a ces pratiques sommaires qu'ont conduit effectivement des Occidentaux. D'où l'association, ou en tout cas un fonds qui permet effectivement de penser que le blanc, lorsqu'il vient dans la région de forêt amazonienne, vient avec un intérêt qui lui est propre et qui est contraire à l'intérêt des Indiens, contraire également à l'intérêt éventuellement de la forêt. On s'aperçoit toujours que le Pishtako semble être un personnage toujours étranger à la communauté, étranger à un certain type de rapports sociaux qui existent entre les personnes constituant une communauté et qui vient là pour opérer une prédation. Or, la prédation en Amazonie, elle a été opérée d'abord par les Occidentaux, ensuite par les Métis. Et donc ça, c'est un premier point qui permettait de comprendre que ce Pishtako pouvait être un élément allogène, étranger à la culture. Et en ce qui concerne l'Amazonie, il y a deux autres faits qui nous ont semblé pertinents. C'était d'une part la zone d'influence du Pishtako, qui était, semble-t-il, étroitement liée à la zone d'influence Quichua. Donc ça en concerne, en gros, la région de l'Ucayali, qui est assez influencée par le Piémont andin, lui-même en contact avec la population des Andes, et Quichua des Andes, et la région du Haut Amazon en partie, Tamboriaco et Napo. Donc cette zone d'influence Quichua permettait peut-être un mythe ou une rumeur ou une croyance d'origine andine de se diffuser. Par ailleurs, il y avait un troisième élément qui permettait peut-être de comprendre comment cela pouvait se greffer, était que dans cette même région avaient existé des populations magua de langue tupi, populations qui étaient coutumières jusqu'à ce qu'elles soient totalement laminées par les évangélistes, par les colons, etc., coutumières de pratiques cannibales. Elles pratiquaient un certain type de cannibalisme, avaient l'habitude de boire le sang dans le crâne de leurs ennemis. Il y avait donc une certaine agression portant sur le corps, des incisions, des choses comme ça, qui permettaient peut-être à une coutume, finalement, de s'enraciner. Il n'y a pas un élément d'explication, mais il faut plutôt voir un faisceau d'indices, un ensemble de facteurs favorisant l'ancrage de cette représentation.
Par là, vers Uchupata, par là. On dit qu'apparaît le soir un certain Emilio Rodriguez. On dit qu'il est Pishtako. C'est un gringo. Il est très fort, barbu, très costaud. On dit qu'il habite dans une grande maison près du village. On dit qu'il monte toutes les nuits sur cette montagne pour regarder si quelqu'un passe seul sur le chemin. Lorsqu'il a vu un luna, il descend et s'approche pour lui demander la route de Anchoga ou n'importe quel renseignement. Lorsque le luna se tourne pour lui indiquer la route de Anchoga, il sort de la poche de son pantalon noir une toute petite machine. On dit que c'est une machine avec des chiffres et des lettres. Puis il l'enfonce dans le dos du luna. Le luna devient vite raide et le Pishtako l'emmène dans sa grotte. Là, le Pishtako égorge le luna. Il lui ouvre le corps avec un couteau pour enlever la graisse. Ensuite, il met la graisse dans des pots, en fait un paquet, puis charge sa mule avec ses paquets. On dit qu'il apporte la graisse à Huancavelica au bureau du chemin de fer pour faire marcher les trains. Il a aussi un contrat avec la firme électrique Electro-Pérou.
Et il apporte aussi de la graisse aux pharmacies de Huancayo où l'on en fait des médicaments. Paysan de Anchoga.
Tous les jours, quotidiennement, les mineurs sont confrontés à la présence des machines, à l'utilisation des machines.
Carmen Salazar.
Et je pense que aussi pour eux, le monde des machines, c'est le monde des hommes blancs, en fait. Et les pichetacos, comme elle est toujours décrit comme un homme blanc. Alors je crois que la présence des machines et dans la mine, il suscite beaucoup des mythes sur les pichetacos.
Et le pichetaco prend une forme particulière à ce moment-là?
Oui, tout à fait. Je pense que, par exemple, les mineurs, ils disent que le pichetaco, c'est l'ingénieur des mines, qui, pendant la journée, il mène une vie complètement normale, comme ingénieur des mines. Mais la nuit, il attend à la sortie de la mine les mineurs pour les égorger et soustraire la graisse. Et en plus, on dit qu'il amène les mineurs à la laverie où il les opère. Il fait une opération, il enlève la graisse et il les stocke dans les éprouvettes du laboratoire de la laverie. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'ingénieur des mines. Même on dit, moi j'ai entendu dire que la compagnie minière recherche des pichetacos. On disait dans la mine où je travaillais qu'il avait sorti une annonce dans un journal en disant qu'il recherchait un pichetaco pour qu'il enlève la graisse des Indiens pour faire marcher les machines. Alors on disait qu'il payait 4500 soles les kilos de graisse. Et les mineurs qui m'ont raconté ça, elle m'a dit que c'était vraiment un scandale parce que les pichetacos étaient payés 4500 soles pour un kilo de graisse, tandis qu'eux étaient payés 500 soles pour la journée. Et l'idée des pichetacos est très concrète dans la mine, ça se concrétise dans la personne de l'ingénieur de mine. Mais c'est pas seulement l'ingénieur de mine qui est accusé d'être pichetaco, c'est aussi les recruteurs des mains d'œuvre pour la mine. Et on l'accuse aussi d'être un pichetaco, ce recruteur des mines. C'est-à-dire, bon, un recruteur des mines, c'est un homme qui va chercher la main d'œuvre dans les villages, dans la vallée qui est près de la mine, et qui s'installe avec une camionnette, un autre parleur, et qui commence à appeler les paysans qui veulent venir travailler à la mine. Et on dit que c'est lui aussi qui est un pichetaco. Pour les mineurs, les pichetacos représentent toute la chaîne, si on peut dire, des travail, d'exploitation aussi un peu dans la mine. Parce que les circuits de la graisse, en fait, les circuits qui suivent la graisse, représentent un peu les circuits qui suivent les minerais, les procédés d'élaboration du minerai dans une mine aussi. Et en plus, ils sont les pichetacos très proches. Comme un représentant de l'exploitation très très proche. Parce qu'on ne dit pas, par exemple, même si on pense que le patron de la mine peut être un pichetaco, parce que c'est lui qui emploie en fait les pichetacos, et on ne dit pas de lui que c'est un pichetaco. Le patron pour eux, c'est quelqu'un de très éloigné comme pouvoir et comme représentation d'un homme blanc, mais il a beaucoup de pouvoir pour eux. C'est pas quelqu'un qui habite tout le temps dans la mine aussi, il faut dire. C'est quelqu'un qui vient de Lima à la mine de temps en temps.
Aujourd'hui, il y a d'autres interprétations du mythe du pichetaco,
Jan Szyminski,
comme celle par exemple de Juan Ancion, lequel affirme que l'on peut interpréter le mythe comme une description de l'extraction de la plus-value des Andes qui sont réinvestis dans d'autres pays. Et si nous pensons par exemple à Potosi ou à la cocaïne, aujourd'hui, cela est certain. En même temps, Juan Ancion a trouvé, au commencement des années 80, une nouvelle version du mythe, selon laquelle le pichetaco n'égorge plus l'Indien, mais profite de sa présence à l'hôpital, puis lui pose une machine dans le cou, et avec cette machine, lui extrait la graisse par le cou, sans le faire mourir. Ce qui montre une nouvelle façon d'exploiter l'indigène, qui ne nécessite pas la mort de l'indigène, mais qui l'oblige à travailler plus dur. Fondamentalement, le pishtaco est l'intermédiaire entre le monde andin et le monde blanc. Mais ce que l'on retire du monde indigène, ce qui cause la mort de l'indigène, donne la vie au monde des blancs.
Pour le recruteur, on disait qu'il était un pishtaco, mais en plus que c'était lui qui avait amené la tuberculose à la mine. Et alors on disait qu'il avait amené la tuberculose parce que dans la classification andine, la tuberculose est une maladie des blancs, des hommes blancs. Parce que les paysans ils classifient les maladies en maladie des runas, des paysans, et maladie d'hommes blancs. Et on disait que lui, il avait apporté la maladie, la tuberculose au campement minier. Et on l'accusait en plus d'être un ivrogne et d'être incesteux. On l'accusait d'exploiter les paysans, c'est-à-dire tous les mauvais côtés, on peut dire, et concentrés sur lui, quoi.
Samedi 15 décembre. J'ai dormi à Manguana la veille. Je suis arrivée chez des gens peu hospitaliers, taciturnes. Mais c'est vrai que je débarquais à l'improviste. Pour peu qu'ils aient entendu l'histoire des Pelacaras, et on est bon. On a préparé à dîner des yucas, des bananes et du poisson salé, et puis dodo. Peu de temps après, au bout d'une heure, je commence à avoir l'impression qu'on secoue mon hamac, qu'un type veut m'agresser. Impossible de me souvenir où je suis ni dans quel sens. Il fait noir, je gueule. Hé, laissez le hamac. Et je me relève complètement étonnée d'avoir hurlé si fort. J'étais mal. Vers minuit, branle-bas de combat. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui parle, court, s'agite. Je ne comprends rien. Quelqu'un aiguise une machette. Quelqu'un attise le feu. Je dors très très mal. Je me réveille à 4 heures du matin. Avec le chant des coqs monstrueux, on ne les supporte pas à cette heure-là. On part à 5h30, après avoir fait tout le barda. Pedro, le patron du bateau, me dit que j'ai rêvé du Tunchi, el difunto, el maligno. Il se réfère sans doute au cauchemar que j'ai eu. Et plus tard, il me dit que toute la nuit, ils se sont relayés au port pour surveiller les Pelacaras. Ils étaient tout autour de moi et me surveillaient avec leurs fusils. Je comprends maintenant l'accueil froid des gens, les bruits de la nuit. Un deslizador, un hors-bord suspect, était passé cette nuit.
Wilfredo Capsoli. Le personnage du pishtaco est comme n'importe quelle figure mythique. Il est surtout terrorisant, plus intense et plus dramatique à certaines époques, comme celle qui vit le Pérou actuellement, avec ses crises, ses conflits, ses violences. Mais c'est un phénomène qui a duré pendant de longues années. Et en plus, dans certaines régions, les personnages prennent des allures franchement terribles, provoquant la panique chez les gens. Alors que dans d'autres régions, Il ne possède pas ces qualités magiques et invincibles.
En las investigaciones recientes, se ha podido comprobar
grâce aux recherches récentes, on a pu constater que tant les personnages que ses victimes et toutes les histoires qu'on a tissées autour de lui sont très variées et échappent aux versions schématiques selon lesquelles les Pistacos ne tuent que les Indiens et que les Pistacos ne sont que des Blancs.
Je pense que c'est une façon de renforcer leur identité aussi. C'est une façon, c'est une manière de resserrer les liens entre eux et de se protéger contre tout ce qui rompt avec les règles de la communauté, je pense. Parce que ce n'est pas seulement un homme blanc qui est accusé, par exemple, ou un ingénieur des mines qui est accusé d'être pishtako. Parce que, par exemple, dans une communauté proche de la mine, on accusait un ex-mineur, c'est-à-dire un ancien travailleur, un ancien paysan qui avait travaillé dans les mines et qui était revenu sur la communauté s'installer, mais qui, par exemple, avait acheté dans la mine tous les appareils électroménagers. Mais comme à la communauté, il n'y avait pas d'électricité, il ne pouvait pas utiliser ces appareils électroménagers. Alors il s'avait enfermé, il avait mis tout dans une pièce, il avait fermé à clé. Et les paysans se demandaient qu'est-ce que c'était, parce qu'ils n'avaient pas le droit à rentrer dans cette pièce et on ne pouvait pas utiliser les appareils électroménagers. Alors ils étaient soupçonnés d'être un pishtako, de tuer les gens, les Indiens, pour enlever la graisse, pour faire marcher ces appareils électroménagers, qu'on ne savait pas qu'est-ce que c'était, parce qu'on ne pouvait pas les utiliser. Et je pense que là, ce n'était pas un homme blanc qui était accusé, mais lui, il avait un comportement pour les paysans d'un homme blanc, pour être accusé aussi d'être pishtako.
Vous avez été confronté à des histoires de pishtako, de gens qui étaient proches de vous, qui étaient accusés de l'être. Et comment vous avez réagi?
C'est effectivement, la chimiste de la laverie est accusée d'être la femme de pishtako, parce que c'est elle qui manipule les éprouvettes du laboratoire. Alors on dit, comme on dit que le pishtako l'opère dans la laverie, et la chimiste est accusée d'être sa femme et d'aider le pishtako dans sa tâche. Alors moi j'ai vécu ça parce que la chimiste habitait dans la même maison que moi. Et c'était très difficile pour moi, parce qu'à chaque fois, les gens ils me disaient « il ne faut pas que tu habites avec quelqu'un qui est la femme du pishtako ». Et c'était une confrontation des pouvoirs aussi, parce que elle me disait que moi, c'était pas ma vie qui était en danger, parce que moi, étant pas un mineur ni un paysan indien, mais que c'était pas bien, parce que c'était pas bien d'habiter avec quelqu'un qui respectait pas en fait les règles de la communauté des mineurs. Dans certains comtés, c'est très difficile de prendre une décision vis-à-vis de ça, parce que, bon, on ne peut pas accuser une personne comme ça et l'éliminer non plus. On ne peut pas laisser qu'un groupe élimine comme ça, mais aussi il faut avoir un certain relativisme, une certaine distance, je crois, vis-à-vis de ces problèmes. Mais c'est très difficile, en fait, parce qu'on est confronté dans la mine, en moi, quotidiennement.
Bolivie, Altiplano, au nord du lac salé de Coipasa, à une journée de voyage de Roro, un territoire à la plus rare, celui de Chipaya. La tradition y est très forte malgré les bouleversements qui se sont produits dans les années 78-80 avec l'extension de diverses églises protestantes et l'abandon progressif de certaines coutumes, dont les cultes aux divinités ctoniennes que sont les Malkus. C'est à cette époque de rupture que le carisiri fait son apparition. Nathan Vachtel.
L'affaire qui avait eu lieu en 78 avait défrayé la chronique. Il y avait eu des articles dans la presse locale, dans le journal de Rouro. C'était donc quelque chose de très connu. Mais malgré cela, donc, ce n'est qu'en 89 que j'ai pu recueillir davantage d'informations parce que le principal intéressé se trouvait dans le village. Bien. Il faut dire que l'intéressé ne m'a pas raconté son histoire tout de suite. Mais à plus d'une reprise, donc, on avait pris rendez-vous, il ne venait pas, il m'a posé un certain nombre de lapins. Bon, et 3 semaines ont passé ainsi. Et je commençais à désespérer quand, au commencement de la dernière semaine de mon séjour, un matin, Antonio vient me trouver pour s'excuser de n'être pas venu encore une fois à un rendez-vous qu'on avait eu la veille, et il me promet de venir le soir même. Bon, alors la personne que j'ai eue en face de moi était quelqu'un qui suait à grosses gouttes, qui était gris de peur, quelqu'un vraiment de totalement déprimé et terrorisé. Et puis, sans que je lui pose la question, lui me raconte ce qui s'était passé 10 ans, 11 ans auparavant. À savoir que, alors, avant la Toussaint ou pendant la Toussaint, un jeune, Chipaya, qui était ivre, s'était vanté que les nombreux malades, les nombreux morts qu'il y avait eu cette année-là, parenthèse, vérification faite dans les registres, il n'y a pas eu plus de morts, de décès en 78 que les années précédentes ou les années suivantes. Bon. Donc ce jeune qui était ivre s'était vanté que les nombreux décès qui avaient eu lieu étaient dus à son activité de carissiri, de pishtako donc. Et en outre, il déclarait qu'il travaillait au service de cet Antonio qui était son patron. Bien. Et c'est ainsi que, au lendemain de la Toussaint, le 3 novembre 78, les 3 aïlous, les 3 communautés de Chipaya, se réunissent et, bon, c'est un phénomène de foule en fureur qui se précipite auprès des 4 accusés, il y en avait 4, mais principalement Antonio. Et alors, il était évident que on s'apprêtait à massacrer Antonio et les 3 autres. Et un beau-frère, voyant bon, le mauvais sort qui allait lui être fait, se précipite sur sa bicyclette, va jusqu'au village voisin à Huachacaya, prévient la garnison qui se trouve là. Un détachement arrive à Chipaya. On les délivre, mais on les met en prison. Car la plainte des autorités de Chipaya est prise en considération et Antonio reste donc pendant 1 mois en prison parce que bon, le juge d'instruction mène enquête pour, alors officiellement, ce crime contre la santé publique. Et alors, mes cheveux se sont dressés sur la tête quand il me dit, eh bien maintenant, c'est-à-dire cette année-là, en 89, de nouveau, il y a des malades. Je sais qu'on me soupçonne, on me surveille, des assemblées, des membres de la communauté ont été réunis et je crains que maintenant tout ne recommence.
Aujourd'hui, dans les versions les plus actuelles, et si l'on considère les phénomènes qui se sont développés dans les années 70, dans le département de Rouro, en Bolivie par exemple, on constate que les personnes accusées d'être des Likichiri ou des Pishtako étaient des personnes de la communauté, des Indiens, mais qui, en raison de leur conduite, de leur croyance, qui parce qu'ils s'étaient convertis à une secte pentecôtiste ou protestante, parce qu'ils refusaient de se soumettre aux obligations collectives, notamment refusaient de participer au système des charges, ces personnes étaient assimilées à l'étranger, au monde, enfin à l'extériorité, et non plus à la communauté elle-même. Et très souvent, c'est pour ces raisons-là qu'on les a accusés, qu'on les a châtiés. Ce sont des personnes qui sont en quelque sorte expulsées de la communauté, physiquement, ou symboliquement, socialement en tout cas.
De retour chez Guillermo et Aurora, je rencontre Anita et Raoul, Severino et Jorge, tous Mairuna qui viennent de l'autre côté du Napo et de la communauté du Sukusari, à quelque distance de là. J'apprends qu'ils sont tous très endettés auprès de Hermógenes Ramírez, qui exploitent illégalement le bois de leur territoire, contre de menus biens, quelques achats, quelques machettes. Severino doit 15 000 soles, Aurora 8 000, toute la communauté est très endettée. Et moi qui voulais bouter Hermógenes hors du Sukusari pour défendre les droits des Mairuna, et si c'était lui qui m'avait accusé de Pishtaco? On a reparlé des Pelacara, des Pishtaco. Guillermo est allé à Massan pour vérifier l'histoire. Le juge lui aurait dit que ce sont des faux bruits, qu'il y a seulement des gringos qui font de la botanique. Mais le caserío n'est toujours pas tranquille. On raconte que je suis dans le monte, dans la forêt, loin, pour tuer les gens, et que j'ai payé Guillermo pour qu'il ne dise rien. C'est fantastique. Cette nuit encore est venu le Tunchi. On le reconnaît à son sifflement. Il paraît aussi que serait venu un jaguar près de la maison de Rosillas. Ce serait l'âme de Don Emilio, le grand ayahuasquero, celui qui sait voir au loin.
El personaje aparece con dos elementos, ¿no? De poder. Por un lado,
le personnage possède deux types de pouvoir. D'une part, le pouvoir des armes, normalement les couteaux, les poignards,
un poder adicional que sería
et un pouvoir supplémentaire qui serait celui des poudres magiques.
La propia digamos, figura el pistonaje del pistaco casi
ainsi que la force effrayante de son apparence mythique
digamos espeluznantes, ¿no? Pero justamente estos dos elementos que
mais ces deux éléments qui font partie des attributs du pistaco
diríamos del atuendo del pistaco
permettent en même temps à la population de se protéger.
Ponerse en guardia, una especie de protegerse. Y entonces sucede que en ciertas áreas como Anca,
et dans certaines zones comme Anca, Chuanco, ils se protègent de couteaux de pistaco en se mettant des objets métalliques autour du cou, qu'ils couvrent avec des châles, ou bien se protègent tout simplement les coups avec un tissu mouillé. Les armes magiques, et principalement la poudre qui endort les victimes et qui permettent aux pistacos d'opérer, on peut les contrecarrer avec des objets mouillés, avec des objets en acier, avec du sel, avec du piment, toutes sortes de choses qui font penser à la protection qu'on utilise contre les revenants. Des revenants maléfiques qui, en état de péché, sont morts sans l'extrême onction de l'Église.
Dimanche 16 décembre. Journée tranquille. Encore la fête, la partie de football, on mange. Arrivés à la maison de Aurora, nous trouvons la madrasta de Guillermo avec ses enfants réfugiés là par crainte des Pishtaco. Delina lui avait raconté qu'il y avait 6 gringos qui étaient venus pour tuer près de la maison de Don Emilio, ce que tout le monde disait à Tamanco. Lundi 17 décembre. Arrive un mec pour Guillermo qui discute une demi-heure avec moi de beaucoup de choses et des fameux pishtako. Il en a évidemment peur, comme tout le monde, mais en plus il est catho, et il se demande comment les États-Unis, qui sont une nation religieuse, peuvent avoir envie de tuer les gens ainsi. Ça ne doit pas être vrai. Pour la centième fois, je réexplique qui je suis, pourquoi je suis là, ce que je pense et ce que l'on m'a dit des Pelacara. Il y en a marre. Je suis allée me faire griller des bananes et il est parti. La nuit est tombée, les crapauds se sont mis à chanter. Il règne une atmosphère à la Magritte. Les arbres se détachent en silhouette sur un fond bleu sombre. Le lamparine éclaire les piliers de la maison.
Entre quienes derrotan al pishtaco y son precisamente, por ejemplo, los toros que devoran al pishtaco.
Parmi ceux qui vont vaincre les pistacos, il y a les taureaux et les chiens qui les dévorent ou aident leur maître à les dévorer.
La población campesina pone en evidencia, por ejemplo, usando el ají que pone.
Il y a aussi d'autres artifices dont se servent les paysans, par exemple le piment qui rend aveugle les pistacos. Ou les chugnos qui l'étouffent. De ces éléments, les taureaux semblent être les plus fascinants.
Fascinante, no tanto porque sea efectivamente la expresión de un elemento europeo dentro de estos cuentos.
Pas simplement parce qu'il est un élément européen dans les contes.
El toro, la
synthèse, mais surtout parce qu'il me paraît la synthèse cristallisée dans l'imaginaire andin d'un personnage primitif antérieur, c'est-à-dire de l'Amaru, dieu serpent qui habite dans les lacs. L'Amaru est un être maléfique qui progressivement a suivi une métamorphose.
A sufrir una metamorfosis hasta convertirse en el toro.
Et il s'est transformé en taureau.
El toro ha terminado aceptándose dentro
en même temps, le taureau s'est imposé dans la mythologie andine comme celui qui produit le métal précieux.
Entonces, yo tengo la sensación de que cuando los toros devoran a los pistacos,
je pense que lorsqu'on parle du taureau qui dévore les pistacos, il ne s'agit pas du taureau, mais de l'amaru.
Y además es interesante esto porque la sierra central es la sierra históricamente que cuyos habitantes de la nación Huanca.
Ce qui est intéressant, c'est que les Huancas, habitants de la sierra central, où cette histoire du taureau est présente, se sont alliés aux conquistadors. Et donc, ils ont été considérés dans l'historiographie nationale comme des collaborateurs. Il apparaît donc une espèce de substrat mythique très ancien qui nous montre aujourd'hui que les dieux, à travers les histoires véhiculées par les gens du peuple, qui ne sont pas liés aux sphères de pouvoir, mettent en place un système d'expulsion, de résistance, de contre-culture face aux pistacos, symbolisés par les Espagnols.
Dans les années 1912-1915, quand il n'y avait pas encore de route, les voyages à Lima se faisaient à pied et à dos d'animaux. Il y avait alors un voyageur appelé Timoteo Oropesa, qui était fréquemment à Lima pour vendre quelques produits de la sierra, comme les œufs, les poules ou les patates. À chaque voyage, il se faisait accompagner de Pichucachi, un chien grand et vaillant. Un dimanche, aux aurores, Don Timoteo harnacha ses mules et prit le chemin de la capitale. Là-bas, il négocia les produits qu'il avait emportés. Par chance, il vendit tout à bon prix. Il alla immédiatement acheter des vêtements pour sa femme et ses fils et se prépara à prendre le chemin du retour à Jaola. Il se mit en route. Et il en était au 8e jour de marche quand il arriva à l'endroit où le chemin se rétrécissait singulièrement avec une montagne d'un côté et un profond ravin de l'autre. c'est à cet endroit qu'il rencontra un pichtaco. C'était un grand individu, bien barbu, portant un poncho et un chapeau. Le pichtaco aborda Don Timoteo et le somma de lui donner argent et marchandises s'il souhaitait qu'il le laisse poursuivre son voyage. Le menaçant de le tuer et de jeter son corps dans ce ravin, dans le cas contraire. Dans ce moment si critique, Don Timoteo pria le pichtaco de lui accorder quelques minutes pour dire adieu à la vie en chantant une chanson qu'il avait composée. Le pichtaco accéda à sa demande. Alors Don Timoteo grimpa sur un grand rocher et commença à chanter à grands cris.
« Ah, Pichucachi, Pichucachi, mes yeux ne te verront plus. Ah, Pichucachi, Pichucachi, adieu pour toujours. »
Ce qui en réalité était un appel à son chien qui s'était attardé à manger une proie sur le chemin. Quand le chien entendit la voix de son maître, il quitta sa proie et courut à son secours. Le pichtaco se préparait déjà à tuer Don Timoteo et sortait son couteau ensanglanté. Quand Pichucachi arriva sans se faire voir et saisit le pichtaco à la gorge, le précipitant au sol. Don Timoteo profita de ce moment pour arracher le couteau des mains du pichtaco et le tua.
Aquí creo que es toda una readecuación de un símbolo y un elemento europeo. El perro aparece en muchos cuentos, en muchas tradiciones.
Il s'agit d'une réadéquation d'un symbole européen où le chien apparaît dans plusieurs récits, plusieurs traditions et contes du Moyen Âge. Le chien a toujours été un personnage assez familier.
Comment est-ce que ce personnage s'incorpore en la thématique de vencer los pistacos?
Comment est-ce que ce personnage va s'incorporer dans la thématique qui est celle de vaincre les pistacos? J'ai l'impression que ce que fait la population andine, d'une façon métaphorique, c'est de s'approprier des symboles européens pour les utiliser contre les envahisseurs.
C'est un tacto comme la que sucedió años antes, ¿no? En la revolución de Manco Inca.
C'est un peu comme ce qui s'est passé bien des années auparavant, au moment de la révolution des Manco Inca, qui est le premier descendant de cette tradition cusquenienne, qui se révolte contre les Espagnols, et qui utilise justement le cheval, les arquebuses, les propres armes des conquistadors pour se défendre d'eux.
À Orinoca, en 1983, dans une communauté aymara située au bord du lac Popo, un habitant de la communauté a été accusé d'être un Likichiri. Il s'agissait d'une personne adulte qui avait assumé certaines charges, mais qui quelques années plus tôt s'était converti au pentecôtisme et qui avait refusé d'assumer les charges les plus importantes, et notamment celle de Rilakata. Les Rilakata étant les chefs des Ailiu, des lignages, je dirais, pour simplifier, et en même temps les gérants du sacré traditionnel. Or, lui, s'était donc converti à une secte, avait pratiqué un commerce assez important, en tout cas, pour pouvoir acheter une camionnette, utilisée à des fins personnelles. Et c'est ce qu'on lui reprochait, finalement. On lui reprochait de n'utiliser son argent qu'à des fins personnelles ou familiales et de ne plus le redistribuer au moment des fêtes, notamment, parmi les autres comunarios. Donc cette personne, lors de la fête de la communauté en octobre, San Francisco, le 4 octobre 1983, la rumeur circulait depuis un certain temps, et au plus fort de la fête, il a été pris, il a été crucifié, frappé à mort, et ensuite son corps a été brûlé sur un bûcher, confectionné devant sa maison, avec des fagots de tola, la tola étant un arbuste utilisé localement comme combustible. Et pourquoi l'a-t-on brûlé ? Et je crois que bon, il y a deux réponses possibles. Peut-être voulait-on supprimer les traces d'un homicide et éviter les châtiments que pouvait imposer la police ou les forces de répression officielles. Mais il s'agissait aussi, en le brûlant, de l'expulser de la patcha, je dirais. C'est-à-dire on lui refusait à la fois un lieu et un moment dans l'histoire de la communauté. Et on évitait du même coup que ces forces, la force du Likichiri, force tout à fait négative, ne vienne ensuite molester, déranger le monde des vivants.
On le condamnait à errer, en quelque sorte.
Ah, plus que cela, on l'élimine complètement. Et c'est quelque chose qui, dans les Andes, s'est pratiqué à plusieurs reprises, notamment lors des soulèvements de 1780, lorsque les Espagnols qui avaient été assassinés par les insurgés, sur les hauts plateaux de Bolivie ou du Pérou, les Espagnols, mais aussi les autorités autochtones loyalistes, étaient tués, on refusait de les enterrer, précisément pour que leur force ne vienne perturber le monde des Indiens. Hein? Je pense que tous ces phénomènes, tous ces mouvements qui se sont produit dans la région d'Oruro dans les années 70, un moment de crise. Il faut s'y replacer ça dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire époque marquée par une grande sécheresse, une mortalité infantile plus importante, des épidémies, des épizooties, etc. Bref, une grande menace venant de l'extérieur. Ces mouvements ont certainement servi à renforcer les liens à l'intérieur de la communauté. Et ont servi du même coup à éliminer les personnes, ou au moins une personne, considérée comme facteur de désintégration, hein, dont les activités pouvaient menacer ou menaçaient véritablement la cohésion et l'identité de la communauté.
La Republica, septembre 1987, département d'Ayacucho. Une centaine d'habitants des Pueblos Jóvenes tuent à coups de machette et de pierre un malheureux commerçant, Luis Waringa Calderón. Point culminant d'une vague de panique, originaire de la forêt le long de l'Aripumac, traversant rapidement la campagne d'Ayacucho pour atteindre, au début de septembre, la ville de Huamanga. La panique coïncide avec une recrudescence de l'action sendériste à l'époque et la répression militaire qui l'accompagne. Selon les versions locales, les Pichtacos sont envoyés par le président Alan Garcia pour tuer très spécialement les enfants et les jeunes avec le but de prendre leur graisse. Alan nous a vendus, a livré Ayacucho pour payer ainsi la dette externe. C'est pour cela qu'ils viennent nous tuer. Et comme ils en ont fini avec la forêt, maintenant, ils arrivent à Ayacucho. La Republica, Lima, novembre 1988. Les Pichtacos apparaissent à Villa El Salvador. Très tôt le matin, la rumeur s'étend et atteint les quartiers populaires de Lima. À la mi-journée, la population est sous le choc. On dit que les gringos sont entrés dans un collège, armés de mitraillettes, enlevant les enfants pour leur arracher les yeux et les vendre à l'étranger. Psychose. Les mères de famille se précipitent et retirent leurs enfants de l'école. Toutes les couches de la population sont touchées. Nouvelle donne du Pichtaco en milieu urbain. De la version coloniale à la version actuelle, le Pichtaco exutoire sur lequel se cristallisent toutes les peurs profondes pour lesquelles les concepts ou clés de lecture historiques, sociologiques et anthropologiques sont encore insuffisantes. Car passer le tabou, plonger au plus profond de la conscience andine et de sa dualité demande espace et temps, alors que la réalité quotidienne ne cesse, dans une chaîne ininterrompue, de donner corps au mythe.
La réapparition de los Pichtacos.
La réapparition des Pichtacos depuis les années 80, qui dure aujourd'hui dans les Andes, au Pérou et en Bolivie, je crois qu'elle correspond à un changement social énorme qui, en ce moment, est en train de s'accomplir. La migration vers les villes, la crise des paysans, car dans les campagnes, Le changement nécessite des inversions énormes. Et tout ça signifie que la société andine traditionnelle, andine indigène, rencontre à chaque fois des conditions de plus en plus dures. Et dans ce cas-là, l'apparition des pishtacos est logique. Les populations andines, à travers la réapparition des pishtacos, décrit un processus de destruction des cultures traditionnelles andines, de désandinisation des Andins. C'est certain, en ce moment, c'est en train de se passer. Il y a 40 ans, la moitié de la population du Pérou, selon les statistiques officielles, parlait le quechua. Aujourd'hui, officiellement, moins de 20% des gens le parlent. Cela fait 40 ans, les populations étaient des habitants des montagnes ou des paysans. Aujourd'hui, la majorité des Andins vivent dans les banlieues, dans les bidonvilles, des grandes villes. En plus, il y a certains facteurs du monde moderne qui renforcent le mythe. Je ne sais jusqu'à quel point dans les grandes villes de Pérou ou de Bolivie, mais je crois que oui. Tout d'abord, le commerce des membres humains. On peut lire dans les journaux de Lima. J'achèterai un rein. J'ai lu ça à côté d'un numéro de téléphone. Bon, c'est évident que parmi les pauvres, il y aura toujours quelqu'un qui va vendre son rein. J'en connais un qui en a vendu un rein. Mais il a dit « je garde l'autre ». Si ça, ce n'est pas une preuve que le pishtaco existe, bien sûr qu'il y en a. C'est vrai qu'il y en a. Ça, c'est une preuve.
Je dirais qu'il est revenu, les pishtacos, plutôt dans les villes qui ont beaucoup de présence rurale par la migration récente.
Jaime Urrutia.
Je peux citer le cas que je connais le mieux, c'est le cas d'Ayacucho, où la population a augmenté 30% de plus que l'augmentation normale à cause de la violence dans la campagne. Les paysans sont venus s'entasser en ville et ils ont porté leur peur. Ils ont porté les petites choses qu'ils avaient comme espoir, mais surtout ils ont porté leur peur de la violence parce qu'ils sont au milieu de deux feux. Et avec ce peur-là, ils ont porté aussi et toutes ces histoires, ces traditions, ces mythes. Alors, vivre comme un immigrant dans une ville où il n'y a pas des moyens pour survivre, c'est-à-dire survivre au minimum s'il y a des niveaux de survivance, c'est difficile. Et c'est pour ça que la tension, l'hystérie peut trouver une place plus, un terrain plus fertile pour donner cours à des histoires comme l'histoire du pishtaco. Et l'histoire du pishtaco, ça commence comme un rumeur dans des moments spéciaux. Il y a des circonstances qui font que les rumeurs du pishtaco commencent à devenir une vraie histoire. Ça commence à devenir une histoire et que tout le monde vit. Ça commence comme la poudre à prendre une sorte d'explosion sociale. C'est à ce moment-ci, au Pérou, il y a la violence de tous les niveaux. Il y a la violence militaire, la violence des sentiers lumineux, il y a la violence quotidienne des malfaiteurs. Et on est possible d'être attaqué même dans un bus au centre-ville. C'est-à-dire, la violence, ça fait partie de la société tous les jours. Mais la violence atteint ce niveau-là parce que l'État même, les institutions de l'État, les gouvernements, et surtout l'État comme la couverture de toute la société, il éclate petit à petit. Il n'y a même pas des représentants de l'État dans plusieurs coins du pays. Alors, comme il n'y a pas l'État qui garantisse la vie collective, la violence prend place. Et à côté de la violence, la rumeur. C'est-à-dire, il faut lier l'effondrement de l'État, l'augmentation de la violence et l'augmentation de la rumeur. Ce sont des trois choses dans un pays comme le nôtre qui vont être liées, et surtout maintenant.
Mardi 18. Au déjeuner, grande discussion avec Don Emilio et Don Manuel à propos des pishtacos. Encore une fois, il est très catho, mais il serait prêt à faire comme les autres, à tuer un quelconque gringo qui viendrait d'Almonte ou du fleuve la nuit. Il ne répond qu'aux gens qui l'appellent par son nom. L'oncle de Guillermo, qui habite en face, lui reproche de ne pas me foutre dehors et que lui-même me tuerait volontiers, si ça ne tenait qu'à lui. Puis Aurora et Guillermo m'ont conduit de l'autre côté du fleuve, en perspective de remonter dans la communauté Mairuna du Sukusari, un peu plus haut. Trois mois après, en avril, dans une autre communauté Mairuna de Yanayaku, qui n'avait pas eu peur du Pishtako, Don Francisco, le chef du village, m'introduit et me présente à toute la communauté après avoir vu qui j'étais et apprécié ce que je pouvais faire.
Ils ont dit qu'elle était gringa. C'est ce qu'ils ont dit, ceux d'en bas. Ils ont dit qu'elle était Pelakara, Pishtaka. Ils ont dit qu'elle était venue pour nous tuer. Mais elle m'a dit qu'elle venait pour entendre ce qu'on pouvait lui raconter, les récits de nos ancêtres. Elle est venue pour apprendre ce qu'elle ne savait pas. Viens chez moi, je lui ai dit. Je te raconterai. Viens chez moi, je lui ai dit. Elle a mâché le tabac, elle a pris l'ayahuasca, et maintenant, si elle continue, elle va devenir comme Gogo Boy. Le Pishtako, permanence, récurrence d'une croyance en pays andin. Avec Wilfredo Capsoli, Carmen Salazar, Antoinette Molinier, Gilles Rivière, Yann Cheminski, Jaime Urrutia, Irène Bélier, Anne-Marie Okengem, Jorge Nahar et les documents sonores d'Irène Bélier, de Jean-Patrick Razon, de Pierre Huguet et Xavier Bélanger. Traduction, Grégorio Mansour, Marie-Paul Vette. Texte lu par Philippe Boris.
Je crois que tout blanc, tout espagnol, tout gringo est soupçonné d'être un pishtako. Personnellement, je crois que tous les anthropologues sont suspects d'être pishtako. Je crois qu'il y a eu Stein qui est allé faire des recherches dans les années 50 à Huelcan. Et je crois tenir un document de première main qui raconte quand il est arrivé à Huelcan. Au début, ils ont pensé qu'il était un commerçant, mais il ne vendait rien. Ensuite, ils ont pensé que c'était un missionnaire, mais il ne prêchait pas. Ensuite, ils ont pensé qu'il était violeur de petites filles, mais il ne l'a pas fait. Ensuite, ils ont pensé qu'il était un violeur de petits garçons, mais il ne l'a pas fait non plus. Alors, ils ont pensé qu'il était pishtako, mais il a participé à la fête communale, et alors ça, ça l'a vraiment sauvé.
chứ bà ôi chê nhé. Ôi chê nhé, ôi chê nhé cháy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 avril 1990.